RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Du 25 juin 1940 au 1er mars 1943, une véritable balafre a traversé la France, occupée à l'époque par l'armée allemande, on l'appelait la ligne de démarcation. Elle partait des contreforts de l'Ain et du Jura, elle coupait le pays du nord au sud à travers la Saône, la Loire, l'Allier, le Cher. Elle suivait le cours des rivières et des routes, elle traversait les champs, les forêts, souvent hérissées de barbelés. Ses points de passage étaient Nantois, Dôle, Moulins, Vierzon, puis à partir de la Touraine, elle obliquait plein sud à travers les Charentes, le Bordelais, les Landes, jusqu'au Béarn, au Pays Basque et à la frontière espagnole. Notre invité aujourd'hui est à la fois journaliste et historien, Richard Verly, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes parti pour enquêter sur ces démarcations françaises, sur les traces contemporaines de cette balafre qui traversait à l'époque un pays oublié, éloigné de Paris, coupé du littoral atlantique, tout au long de cette ligne qui fut, il faut le dire, la véritable colonne vertébrale de la France de Vichy. Alors Richard Verly, vous êtes le correspondant permanent à Paris du quotidien suisse Le Temps. On verra dans un instant que vous êtes franco-suisse et que cela nous est précieux à bien des égards. Je rappelle que vous avez été basé à Bangkok en Asie, vous avez été le correspondant de La Croix. Vous avez aussi travaillé à Tokyo, Genève et Bruxelles. Et puis, nous le verrons tout à l'heure, vous avez grandi dans la Nièvre, au pied de la ligne de démarcation. Votre livre s'appelle « La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 à la France d'aujourd'hui ». C'est publié chez Grasset. Et nous avons également avec nous, en duplex depuis les studios de RCF Tours, l'historien Éric Allary. Bonjour.
Bonjour à tous deux.
Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez été déjà à plusieurs reprises l'invité des Racines du Présent, notamment pour votre dernier livre sur l'histoire des enfants qui a été publié chez Passé Composé. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer la ligne de démarcation puisque vous avez publié un livre aux éditions Perrin qui porte ce titre, La ligne de démarcation, livre qui vient d'être réédité en collection de poche, la collection Tempus de chez Perrin. Voilà, notre thème aujourd'hui, de la démarcation de 1940 au fracture d'aujourd'hui.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Avec nous aujourd'hui en studio, le journaliste et historien Richard Verly pour son livre « La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui » chez Grasset et l'historien Éric Allary pour son livre « La ligne de démarcation » publié chez Tempus Perrin. Et également, vous avez écrit, je crois, Éric Allary, un « Que sais-je » aussi sur la ligne de démarcation. Voilà, donc vous êtes l'expert en matière de ligne de démarcation. Alors je me tourne pour commencer vers Richard Verly. Vous êtes franco-suisse et je crois qu'il faut, il faut le dire tout de suite, c'est important parce que la Suisse, quelque part, est l'exact inverse du modèle français, n'est-ce pas, Richard Verly?
Alors effectivement, c'est le cas de la Suisse d'aujourd'hui, c'était le cas aussi de la Suisse d'hier, mais c'est vrai qu'en 2022, si vous comparez l'état de la Suisse, l'organisation du pays, son fonctionnement politique à celui de la France, on est à beaucoup de points de vue aux antipodes. Alors c'est cela qui m'a intéressé, donc moi je suis, comme vous l'avez dit, correspondant à Paris du Temps, j'exerce cette fonction depuis 2014 et j'ai la caractéristique d'être franco-suisse. Pourquoi la ligne de démarcation? Vous avez un petit peu donné l'origine, on peut dire, familiale de cet intérêt pour cette ligne qui traversait, entre autres, qui scindait la France non occupée.
La zone nono, comme
voilà,
on disait à l'époque.
Exactement, voilà. Mais elle passait en bas du village où j'ai grandi, dans la Nièvre, puisqu'elle, à cet endroit-là, elle était matérialisée par la rivière Allier. Mais surtout, deux autres caractéristiques. D'une part, elle démarrait ou elle finissait, selon le sens qu'on veut prendre, ensuite à Genève, donc ça avait une signification que de s'intéresser à cette fracture-là. Et enfin, troisième élément, elle traversait cette France à laquelle je voulais m'intéresser, que j'appelle un peu la France immobile, c'est-à-dire cette France très rurale qu'on a beaucoup tendance à oublier aujourd'hui. On parle beaucoup de la France périphérique, donc de la France qui jouxte les grandes agglomérations, mais moins de ce socle rural français, de cette région centre. Et c'est vrai que là aussi, c'était un centre d'intérêt.
Alors vous avez parcouru cette ligne de démarcation aujourd'hui et vous avez retrouvé, Richard Verly, les mêmes paysages, les mêmes ponts, les mêmes berries, les mêmes bâtiments, il y a une sorte de permanence.
C'est incontestable et je crois qu'Éric Alary qui est avec nous, lui aussi l'a expérimenté puisque dans son livre, on le voit puisque contrairement à mon ouvrage, le sien a des photos. Ce qui est très frappant quand vous visitez, quand vous suivez la ligne de démarcation, c'est que assez souvent, vous prenez les clichés d'époque, les clichés que j'avais entre autres photographiés au petit musée de Gennelard en Saône-et-Loire,
on en reparlera,
et vous retrouvez exactement les mêmes endroits, c'est-à-dire vous retrouvez les mêmes ponts, vous retrouvez le même bâtiment, vous retrouvez évidemment la même église, et c'est dire qu'il y a dans ce pays une France immobile, une France qui n'a pas changé. Alors elle n'est pas immobile du point de vue sociétal, du point de vue de l'activité économique.
Voilà, vous allez en parler parce que vous avez retrouvé les mêmes gens, les mêmes familles.
Évidemment, mais elle est immobile dans sa conception, dans son rapport au territoire. Et moi, je pense que là, ça nous permet de parler des fractures d'aujourd'hui. Il y a un point important, c'est-à-dire que très longtemps, si vous relisez, par exemple, la visite aux paysans du centre de Daniela Lévy, publiée dans les années 30, si vous relisez La vie d'un simple d'Émile Guillaumin, dont je parle, cette France était le socle de la République pendant très longtemps.
Parce que la terre, elle ne ment pas, comme disait Philippe Pétain à l'époque.
Alors,
c'était aussi l'un des fondements de la Révolution nationale.
Tout à fait. Ouais. Il y avait, mais avant même, et si on parle de la République, elle était calée sur ce socle-là, sur ce socle terrien.
Rural,
absolument.
Terrien.
Et il me semble qu'aujourd'hui, ce socle, pour plein de raisons, est fragilisé.
Alors on va en parler.
Et donc, ça explique pourquoi je pense que le tracé de cette ligne de démarcation dit quelque chose des fractures de la France d'aujourd'hui.
Alors Éric Alary, rappelez-nous, cette ligne de démarcation, elle a été inventée par qui, comment elle s'est mise en œuvre et pour quelles raisons? Rappelez-nous.
Oui, merci. Juste avant de vous répondre complètement, un peu comme Richard Werly, on a des origines en fait personnelles et familiales en lien avec cette ligne de démarcation, la Nièvre, mais aussi l'Indre-et-Loire. Et c'est assez curieux parce que ce qui a déterminé son ouvrage à Richard Werly, ce sont à peu près les mêmes raisons que les miennes lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat sous la direction de Jean-Pierre Azéma à Sciences Po Paris sur la ligne de démarcation. J'ai d'abord parlé d'un village, puis d'un département, puis d'une région, puis de toute la France. Et comme Richard, ben j'ai parcouru la France, j'ai vu les archives, je suis allé dans le pays de Gex, j'ai essayé de comprendre pourquoi la Suisse avait été enfermée dans cette espèce d'appendice, hein, le pays de Gex.
Voilà, on va parcourir.
On en parlera tout à l'heure.
On va parcourir nazis, tout ça. Mais rappelez-nous peut-être pour nos auditeurs, ça a commencé comment la ligne de démarcation à l'origine, voilà.
À l'origine, la ligne de démarcation, évidemment, est créée, si vous voulez, par la convention d'armistice, d'armistice franco-allemande, qui, notamment en droit international public, doit précéder la rédaction d'un traité de paix, qui restera une illusion pendant toute la guerre, enfin bref. Et parmi les 24 articles de la convention d'armistice, il y a les articles 2 et 3, qui fixent, finalement, le partage de la France en deux grandes zones. Officiellement et officieusement, les Allemands créeront, vous le savez, d'autres zones.
La zone interdite,
voilà, etc. Alors, ça se passe avant la réunion à Rétonde, dans le wagon, même où les Allemands avaient été humiliés.
Nous sommes en juin 1940.
Nous sommes en juin 1940. Et donc, ces négociations, enfin, qui ne sont pas des négociations, ont lieu donc dans le wagon. Hitler est là avec deux généraux, général Keitel et général Jodl. Face à lui, les plénipotentiaires français. Et donc, les plénipotentiaires français qui viennent depuis Bordeaux, qui sont passés d'ailleurs près de Tours, et qui donc vont à Rétonde, découvrent avec stupeur donc que c'est la fin de l'armée, que c'est la fin de ceci, la fin de cela, et surtout que la France est partagée en deux zones.
Alors, qui a décidé de ce tracé, de ce parcours de la ligne de démarcation?
Ben, en fait, c'est l'état-major allemand qui dit, de la Wehrmacht, qui dit à Hitler que finalement, les Anglais voulant continuer la lutte, ils ne peuvent pas continuer leur marche vers le sud. D'ailleurs, le tracé de la ligne est bien plus au nord que la ligne de front qui a été atteinte par les Allemands qui sont au-delà de Lyon, par exemple, au sud. Et donc, ces généraux, qui sont des généraux qui ont été enseignants dans les écoles militaires d'officiers allemands, qui rêvaient aussi pour beaucoup d'une France allemande, qui rêvaient d'une revanche par rapport à la Première Guerre mondiale, qui rêvait aussi d'une revanche par rapport à l'histoire du Moyen-Âge, quasiment, en recréant la vieille Lotharingie, qui rêvait, en quelque sorte, d'une Europe pan-germaniste, déjà, pensait que la France pourrait déjà être découpée dans un premier temps, avec quelques humiliations, et en même temps, ensuite, pouvait être totalement occupée. D'ailleurs, Hitler, lorsqu'il voit la ligne de démarcation, le tracé qui lui est proposé, il dit, attention, maintenant, il faut préparer le plan d'occupation totale dès l'été 1940.
C'était déjà prévu.
Tout à fait.
De façon tout à fait concrète, comment fonctionnait cette ligne de démarcation? Qui avait le droit de la traverser? Pour quelles raisons? Expliquez-nous, Éric Alary.
Oui, alors la ligne démarcation parcourt, comme le rappelle très bien Richard Werly, 1200 km de France. Une France rurale pour l'essentiel, sauf à Moulins-sur-Allier, sauf à Vierzon et quelques autres petites villes. Mais donc c'est un tracé qui est matérialisé souvent par des rivières, par des points hauts. On le voit très très bien notamment dans la section, on va dire, est-ouest, entre la frontière franco-suisse et la Touraine. Par exemple, la rivière Le Cher matérialise la ligne de démarcation entre Vierzon et Bléré, Chenonceau, hein, pour parler plus concrètement, qui est plus connu que Bléré. Et sinon, la ligne de démarcation dans les champs était matérialisée par des poteaux d'1,50 m à 2 m de haut. Dans les villages, il y avait des guérites avec des soldats allemands, des barrières également. Donc, à quelques endroits, notamment dans le Cher, mais aussi, je crois, en Saône-et-Loire, il y avait des mines explosives et des herses, notamment. Mais ne voyons pas la ligne de démarcation comme un mur hermétique, comme un mur, comme le rideau de fer même,
oui.
Comme les lignes qui existent à Chypre, en Corée, ou même au Liban pendant un temps. C'est une ligne passoire, c'est-à-dire qu'elle est assez facile à franchir. Qui peut la franchir ? Bien, il y a une zone, notamment pour les riverains de la ligne de démarcation, de 10 km de part et d'autre de la ligne, qui est facile à franchir, enfin facile, qui doit être franchie grâce à un laissez-passer 10 petites frontières. En revanche, dès qu'il s'agit d'aller d'une zone à l'autre, sur des distances beaucoup plus longues, il faut obtenir un laissez-passer 10 grandes frontières, qui est beaucoup plus difficile à obtenir, tellement difficile que seuls deux membres du gouvernement, pendant toute l'existence du régime de Vichy, ont eu un laissez-passer permanent.
D'accord, donc c'est une contrainte extrêmement forte. Richard Werly nous rappelle dans son livre qu'il y a une grande créativité qui s'est développée autour de cette ligne de démarcation. Un petit peu peut-être, vous faites le parallèle, Richard Werly, avec la créativité, pour le meilleur et pour le pire, qui s'est développée pendant la crise de la pandémie chez nous, c'est-à-dire des faux certificats, des faux Ausweis. vous confirmez, Eric Allary ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Richard Werly. Par contre, n'allons pas jusqu'à faire ce qu'ont fait certains complotistes. L'AFP m'avait interrogé au moment du confinement. D'abord, pour l'exode, les Parisiens qui viennent au moment du Covid. Mais bon, comparaison n'est absolument pas raison dans ce cas-là.
Merci de le rappeler, oui.
Voilà. Il y a eu des complotistes qui ont comparé, qui ont trafiqué un laissez-passer interzone de la Seconde Guerre mondiale en essayant de faire un copier-coller avec les attestations que nous avions, les premières attestations, ce qui était totalement faux. En revanche, là où je rejoins Richard Werly, qui évidemment n'allait pas dans le sens de ces complotistes français, c'est que effectivement, il y a eu cette volonté de jouer avec la ligne de démarcation. Les Français ont beaucoup resquillé, ont essayé de trafiquer effectivement de faux laissez-passer pour qui rencontrait une amoureuse, un amoureux, qui pour aller travailler au-delà des 10 km de part et d'autre de la ligne de démarcation. C'est vrai, il y a une ingéniosité, il y a un jeu.
Il y a un jeu. Ça, pour vous, Richard Werly, c'est l'expression positive d'une sorte de créativité à la française que vous constatez encore aujourd'hui ?
Oui, ce qui est frappant dans la ligne de démarcation, et ça aussi c'était un déclic, c'est qu'elle révèle non seulement l'ingéniosité française, mais je dirais la capacité de la France à tenir dans toutes les épreuves. Et je voudrais là donner un élément. Une des raisons pour laquelle je me suis plongé dans ce livre, c'est Éric Zemmour. Mais le Éric Zemmour de 2018, quand il publie Le Suicide français, qui est l'un de ses best-sellers, peut-être d'ailleurs son livre qui s'est le mieux vendu, et il vient le présenter à Genève. Et à ce moment-là, il me donne un entretien que je publie dans Le Temps. Et à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, il présente comme principal argument de sa démarche qui n'est pas encore celle d'un candidat, l'angoisse de la disparition de la France. C'est-à-dire, tout tourne chez lui autour de cette idée que la France peut disparaître. Et immédiatement, je me suis dit, mais et si c'était vrai ? Et si c'était vrai que la France pouvait disparaître ? Quelle est la période historique, au fond, et Éric Allary l'a très bien dit, où la France aurait pu le plus disparaître ? C'est donc juin 1940, c'est la ligne de démarcation avec les plans de Hitler, etc., qu'Éric Allary a très bien décrit. À ce moment-là, la France est confrontée à la déflagration sans doute la plus majeure de son histoire contemporaine.
Oui, c'est un traumatisme profond, essentiel.
Elle peut devenir allemande. Oui. Elle peut, et d'ailleurs, les Allemands veulent la transformer en province allemande. Eh bien, la France résiste. Là, je ne parle pas de résistance militaire, mais elle résiste. Elle résiste par tous les moyens, elle tient bon. Et ça, je trouve ça fascinant.
C'est une résilience.
C'est plus qu'une résilience.
C'est plus que ça.
C'est plus qu'une résilience. Oui. Alors, il y a toute la théorie que certains historiens ont beaucoup développée sur l'accommodement. Et c'est vrai que les Français se sont accommodés, avec tout ce que cela suppose, de l'occupant allemand. Mais il y a autre chose. Moi, l'identité française, l'identité, n'est jamais, finalement, elle ne sombre jamais, elle perdure. Et derrière ce livre et derrière mon voyage, c'est aussi ça que je voulais dire, c'est quelque part, les Français devraient reprendre confiance dans la France parce que même à cette époque, elle a tenu bon.
Les racines du présent. RCF.
Nous parcourons aujourd'hui l'ancienne ligne de démarcation de 1940 et avec le journaliste et historien Richard Verly, nous suivons son périple tout au long de cette ligne. Le titre de son ouvrage, La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, c'est chez Grasset. Et nous sommes également en compagnie de l'historien Éric Allary qui a publié plusieurs ouvrages sur la ligne de démarcation sous ce titre-là, donc notamment un Que sais-je et puis un livre chez Tempus aux éditions Perrin, dans l'édition de Poche. Alors, Richard Verly, vous avez commencé votre périple forcément à Vichy. Vichy qui est le siège donc de ce nouveau gouvernement français, le siège de l'État français. Et vous avez titré votre chapitre consacré à Vichy, le piège du « je hais donc je suis », je hais, H-A-I-S. Que voulez-vous dire, Richard Verly ?
Ce que je veux dire, c'est que on voit bien, et c'est une évidence, que la ligne de démarcation va permettre beaucoup de choses horribles. Les Français jouent avec cette ligne, ils resquillent, comme l'a expliqué Éric Allary, mais il y en a aussi beaucoup qui commettent des actes absolument affreux. La France, à cette époque, se retrouve avec une proportion de salauds non négligeables.
C'est-à-dire
de dénonciateurs,
de trafiquants de marché noir.
Ah, absolument, absolument. Mmh. Et ce qui m'a frappé, c'est que il y a, au moment où est instaurée cette ligne de démarcation, c'est sans doute le produit de la guerre, mais c'est plus que ça, la capacité des Français à se haïr entre eux. Et ça intervient au même moment qu'un formidable élan de solidarité, parce que vous avez quantité de gens.
Les deux ensemble.
Les deux ensemble.
C'est ça qui vous intrigue, vous, le franco-suisse.
C'est ça que j'avoue que j'ai souvent de la peine à comprendre, ce qui prouve peut-être que le en même temps d'Emmanuel Macron a un fondement très français. C'est comment on peut à la fois faire face à un tel déferlement de haine et à un tel déferlement de solidarité.
Alors à Vichy, vous avez rencontré des gilets jaunes et vous faites le lien, Richard Verly.
Oui, je fais le lien. Alors, entendons-nous bien, je ne vais absolument pas comparer les revendications des gilets jaunes au comportement des Français pendant la guerre de 40 et je m'en explique. Le lien, il est plutôt sur l'aspect de la France oubliée. C'est-à-dire, au fond, l'une des caractéristiques de cette ligne de démarcation, mais les Français de ces régions n'y sont pour rien, c'est que d'un seul coup, les 13 départements traversés, qui sont des départements, on va dire, dont on parle peu, deviennent le centre de la France. C'est là que tout le monde converge, parce que tout le monde veut passer cette ligne. Et donc, les habitants de tous ces petits villages deviennent finalement, véritablement, un énorme enjeu, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez passer ou ne pas passer la ligne. Eh bien, aujourd'hui, les habitants de ces villages se sentent complètement oubliés. Et alors que ces villages, je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas changé. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à creuser. C'est-à-dire ce sentiment qu'au fond, ils ne comptent plus. Or, à différentes époques, notamment celle de la ligne de démarcation, ils ont été la France.
Oui, vous citez des gilets jaunes que vous avez rencontrés à Vichy, Richard Verly. Ils vous ont dit, ben oui, c'est un peu comme en 40, personne ne se bat et nous vivons, nous ici, une sorte d'exode sans combat.
Oui, moi, un des témoignages qui m'a le plus frappé, alors une des difficultés que j'ai eues par rapport à Éric Allary qui a fait son travail il y a quelques années, c'est que bien évidemment, l'âge faisant, beaucoup de survivants directs disparaissent. Et donc, je me suis plutôt plongé dans les archives, notamment tous les témoignages donnés à la presse régionale. Beaucoup de ces gens ont parlé ces 10, 20, 30 dernières années à la presse régionale. Et moi, j'ai retenu deux choses. La première chose, c'est que à l'époque, le spectacle le plus traumatique vécu par les Français de ces villages, c'est de voir arriver les prisonniers de guerre français, la glorieuse armée française qui redescend, je dirais pas en haillons, mais en tout cas
quasiment,
en très mauvais état,
dépenaillés,
alors que les
démembrés.
Allemands, vous l'imaginez, ont leurs uniformes parfaitement sanglés et incarnent la force brutale vainqueur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une désagrégation de l'État. L'État français qui est traditionnellement, on le sait, un État centralisé, tout tombe de Paris. Et bien d'un seul coup, ce n'est plus le cas. Le régime de Vichy est à plein d'égards un régime fantoche, qui n'a pas d'autorité. Il a une forme d'autorité, mais très franchement, beaucoup de choses se passent au niveau local. Et c'est peut-être la première fois où les Français découvrent qu'il va leur falloir se prendre en main localement, eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est très intéressant.
Finalement, il y a eu des choses positives. Éric Allary, cette désagrégation de l'État, l'historien que vous êtes, l'a-t-il contesté ? On peut dire effectivement que l'ordre républicain s'est volatilisé, mais la France ne s'est pas désagrégée, pourtant, Éric Allary.
Non, elle ne s'est pas désagrégée. Alors, on voit pendant l'exode de mai-juin 40, comme le dit Richard Warly, une France qui est décérébrée. Tout le monde s'en va, les gendarmes, les préfets, sauf Jean Moulin peut-être, oui. À Chartres et quelques autres, notamment à Château-Chinon ou ailleurs, dans la Nièvre. Et très très vite, les Français s'organisent sur le plan local. C'est le système D. La France de la ligne de démarcation, c'est la France du système D. Elle est très majoritairement, on l'a dit, rurale. Pourtant, les Français se sentent dos à dos. Alors, dans les premiers temps de la ligne de démarcation, ils sont quand même tout à fait choqués. Il y a d'abord l'exode, dont il faut digérer les principales conséquences. Il y a le retour de l'exode. Il y a un État, on ne sait plus tellement où il est. Les maires des villages qu'a traversé Richard Warly ne savent plus tellement où est le préfet, le bon préfet.
Qui commande ?
Voilà. Alors, la Nièvre, elle est léchée, si vous voulez, par la ligne de démarcation, mais elle n'est pas coupée vraiment en deux, puisqu'on a commencé par la Nièvre. Mais la plupart des départements sont vraiment coupés en deux. Souvent, la partie agricole est coupée de la partie industrielle. Et donc, vous avez des morceaux de départements qui se retrouvent rattachés à des sous-préfectures qui ne sont pas celles de leur département. Et donc, c'est un peu le chaos au départ. Les maires écrivent aux préfets qui ne savent pas vraiment où passe la ligne de démarcation. Les Allemands sont les vainqueurs. Bon. Et pourtant, les Français s'organisent très très vite aussi. La délégation française qui est donc à Wiesbaden et qui négocie le traité de paix avec les Allemands, essaie de demander des améliorations, des tracés plus précis. Et finalement, bon an mal an, entre l'été 40 et l'automne 1940, tout le monde commence à apprendre à vivre avec la ligne de démarcation pour aller à l'école, grâce à ces fameux laissez-passer. Mmh. Et puis, les gendarmes aussi. Certains sont ulcérés par cette terroir partagé. Effectivement, ce que disait Richard Warly est tout à fait juste. Ces paysans ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui errent dans les champs. Et comme l'on dit souvent en France, Richard Warly, on parle du bon sens paysan. Je ne sais pas si on le dit des paysans suisses. Mais en tout cas, le bon sens paysan français veut qu'on ne laisse pas errer comme ça une famille en plein milieu d'un champ, en plein milieu du bourg. C'est comme ça que le passage clandestin va commencer, oui. Avec cette idée qu'on résiste aussi à l'Allemand.
Alors, Richard Warly, vous êtes à Vichy, donc, puis ensuite on va poursuivre votre enquête tout au long de la ligne de démarcation. Mais à Vichy, vous avez rencontré une personnalité intéressante, c'est Claude Maluret. Claude Maluret qui a présidé Médecins Sans Frontières, qui a été l'un des premiers médecins humanitaires en France, qui a été maire de Vichy pendant longtemps. Il est aujourd'hui sénateur de l'Allier. Et je voudrais vous faire écouter, Richard Warly et Éric Alary, un extrait d'un discours de Claude Maluret, donc qui est sénateur, un discours au Sénat, où il s'est un peu énervé, vous allez voir, peut-être au second degré, face aux antivax, et on sait à quel point ça a été une fracture française ces derniers mois. Et vous allez voir qu'il utilise les mots de Shoah, de résistant, enfin voilà, il fait jouer des résonances entre l'époque de l'occupation et aujourd'hui. On écoute Claude Maluret.
En écoutant notre collègue Ravier, j'ai soudain compris que nous vivions sous le joug d'une dictature et que sans une poignée d'héroïques résistants, nous ne nous en serions même pas aperçus. On nous a tous inoculé dès notre plus jeune âge le DT polio. Et depuis, Agnès Buzyn, cette autocrate, a rajouté 8 vaccins obligatoires. Le carnet de vaccination, ancêtre du pass sanitaire, instaurait un contrôle généralisé de la population. Big Brother avait décidé qu'aucun enfant, tenez-vous bien, ne pouvait entrer à l'école sans cette Ausweis, pour parler comme notre collègue. Notre droit le plus sacré à choisir la maladie plutôt que l'immunité était bafoué depuis Pasteur. Les Français eux-mêmes avaient intériorisé la servitude, pensant comme Hobbes que seul un Léviathan armé de seringues et d'aiguilles pouvait les sauver. Heureusement, comme Zorro, Facebook et Twitter sont arrivés, permettant à une avant-garde éclairée de se regrouper contre le totalitarisme vaccinal. Après que durant des années, 11 vaccins nous aient été injectés à l'insu de notre plein gré, au 12e, bingo, nos yeux se sont dessillés grâce à ces combattants de la liberté qui ont eu le courage de nommer l'infamie du pass sanitaire. Apartheid pour Florian Philippot, coup d'État pour Asselineau, discrimination généralisée pour Coquerel et ce soir enfermement généralisé pour Ravier. Étoile jaune ou Shoah pour les plus audacieux. En définitive, la meilleure preuve des progrès de l'humanité, c'est qu'en 2500 ans, nous sommes passés de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. Quel dommage que les réseaux sociaux n'aient pas existé plus tôt pour défendre contre les dictateurs de la piqûre la liberté de mourir en harmonie avec la nature et ses dons, parmi lesquels nos compagnons de toujours, la variole, la poliomyélite, la peste et le choléra, qui ont permis aux plus grands auteurs, Camus, Giono, Thomas Mann ou d'autres, d'écrire les chefs-d'œuvre immortels de la littérature de pandémie. La variole a disparu, Le Covid, lui, a des chances de survivre grâce à tous les résistants numériques qui exigent le droit d'attraper le virus et de le combattre comme les Polonais de 40 contre les chars soviétiques à la seule force de leur poitrine et de leurs mains nues et le seul secours de l'hydroxychloroquine, parfois renforcé par un médicament redécouvert, le Ricard.
Voilà, c'était le sénateur Claude Malhuret à la tribune du Sénat. Vous avez évidemment compris le second degré de cette tirade, disons, anti-vax. Richard Verly, pour votre livre, donc La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, vous avez rencontré à Vichy Claude Malhuret. Et que vous a-t-il dit de l'état du pays aujourd'hui ?
Oui, j'ai rencontré Claude Malhuret à plusieurs reprises. On s'est aussi parlé au téléphone. D'abord, un mot sur Malhuret. Vous avez cité son itinéraire en tant que président de Médecins sans frontières. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est un élu d'un département très rural, l'Allier, et qu'il connaît le monde, et qu'il a arpenté le monde. Et ça, c'est finalement une combinaison assez rare, admettons-le. Et c'est ce qui fait, je crois, son originalité et son indignation, outre son talent oratoire dont on se réjouit. Ça, c'est très intéressant. Non, Malhuret dit deux choses, au fond. La première chose, c'est qu'il est stupéfait de la capacité des gens qu'il connaît, puisqu'il les connaît, ce sont ses électeurs, c'est les gens qu'il côtoie, à s'enfermer dans des fausses vérités. Et ça, je crois qu'il faut toujours s'en méfier. Et la période de la guerre, évidemment, avec la propagande, a été très propice à ça. Toute une partie de la population française s'est enfermée dans les fausses vérités de la propagande, certains allant jusqu'à la pire des collaborations. Et ça, je crois qu'il met l'accent là-dessus.
Il faut le garder en tête.
Et gardons ça en tête, cette capacité qu'on peut avoir à s'enfermer dans de fausses vérités. Et c'est ce qu'il dit, évidemment, à propos des vaccins. Et la deuxième chose qu'il explique, c'est que il y a des blessures, et les gilets jaunes sont le résultat d'une blessure. Il y a des blessures qu'on peut contester, qu'on peut regretter, bien sûr, mais qu'on ne peut pas soigner. Et ça, je crois que c'est aussi une caractéristique.
Par exemple,
cette blessure qu'on pourrait qualifier de identitaire, d'une certaine manière, c'est-à-dire des gens qui se sentent, qu'on le veuille ou non, et alors que les indicateurs économiques ne le montrent pas, ils se sentent lésés, ils se sentent perdants, ils se sentent oubliés.
Rejetés, en manque de reconnaissance.
Voilà. Alors lui a choisi un parti pris qui est de les secouer. Régulièrement, de monter à la tribune en disant c'est faux, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Mais quand vous parlez avec lui, il admet que malheureusement, les secouer, ce n'est pas le remède. Et il y a des blessures que peut-être politiquement, aujourd'hui, on ne sait pas traiter en France.
Alors, on va y revenir, mais on va poursuivre avec vous votre périple tout au long de la ligne de démarcation de 1940 à aujourd'hui. Richard Verly, vous vous êtes rendu dans le département de la Saône, une bourgade qui s'appelle Genelard. Et à Genelard, vous avez constaté les tribulations du musée local, un musée autour de la ligne de démarcation, des tribulations assez révélatrices à vos yeux, Richard Verly.
Alors, je crois qu'Éric Alary pourra lui aussi donner des explications parce qu'il connaît bien le musée qui s'appelle en fait de son nom officiel le Centre d'interprétation de la ligne de démarcation à Genelard, effectivement en Saône-et-Loire. C'est très intéressant. Moi je conseille à tout le monde d'y aller, à tous ceux qui le peuvent, et voir aux enseignants d'y emmener leurs élèves parce qu'on voit là plusieurs choses. On voit l'accommodement de la population française à l'occupant, on voit l'ingéniosité dont on parlait tout à l'heure, on voit aussi la réalité de ce qu'était la France de l'époque, notamment avec une quantité de documents officiels, vous savez, les épiciers ou les agriculteurs qui, par exemple, listaient leur production pour justifier le passage de la frontière, cette frontière qui était la ligne de démarcation. On voit évidemment l'héroïsme, on voit les pires bassesses. C'est un peu comme un scalpel, ce centre d'interprétation, c'est en ça qu'il m'a intéressé. C'est un scalpel plongé dans le ventre de la France et on a une espèce d'autopsie en direct. Elle n'est pas toujours agréable à voir, mais je crois qu'elle relève de la vérité. Il y a eu des tribulations, vous en parliez, parce que ce musée a eu une première vie, il a fermé, ensuite il a réouvert, il est contesté. Il est contesté parce qu'il y a toute une partie de la population locale qui ne comprend franchement pas pourquoi on continue de parler de cette blessure, de cette fracture française.
C'est ce fameux passé qui ne passe pas.
Ah, c'est le passé qui ne passe pas, tout à fait.
Éric Alary, vous qui êtes historien, vous le constatez, ce passé qui ne passe pas, notamment au long de cette ligne de fracture de démarcation de 1940 ?
Oui, pour certains électeurs, certains compatriotes, effectivement. Genelard, dans ses origines, avait voulu être très précis sur l'histoire de la ligne de démarcation. Et moi, j'ai participé à la création de ce musée. Et ils ont fait un travail remarquable. Un petit village de quelques centaines d'habitants qui obtient quelques millions d'euros pour construire un bâtiment, faire ce musée. Et d'ailleurs, ça correspond aux années 94-95, vous savez, année de commémoration de la libération de la France, du rétablissement de la légalité républicaine. Et j'ai vu ainsi, après la publication du Que sais-je, juste avant, que des communes m'appelaient à ce moment-là pour essayer de trouver un moyen de commémorer la guerre. Et c'était un moyen pour les villages, et c'est intéressant, ça rejoint la réflexion de Richard Warley, c'était un moyen pour beaucoup de villages de dire, on était là pendant la guerre, on a fait quelque chose, on a participé à la libération de la France. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé mon enquête dans les années 90 sur la ligne de démarcation, souvent on me disait, oui, vous venez de Paris alors que je venais de la province, vous ne parlez que de la grande résistance, de la résistance politique, nos passeurs ne sont que des roturiers.
Déjà ce sentiment d'être oublié, d'être méconnu.
Oui, d'être oublié. Oui. Et finalement, en 94-95, dans les années suivantes, fleurissent ainsi des monuments, des lieux de mémoire, des lieux de savoir comme Gennelard, des lieux de mémoire comme, par exemple, dans le Cher, notamment à Teignoux, qu'a très bien visité et décrit Richard Warley.
Alors, Richard Warley, vous écrivez, autrefois, hier, la ligne de démarcation était une frontière de douleur et de sang, on l'a bien compris, mais vous allez plus loin, vous écrivez, aujourd'hui, les démarcations sont administratives, corporatistes, professionnelles, elles transforment le territoire en mosaïque d'intérêts particuliers. Alors, on a parlé de Vichy, on a parlé de Gennelard, on va parler de Arbois dans le Jura, de Nantua dans l'Ain, de Trenet dans la Nièvre. Où et comment avez-vous constaté cette mosaïque, Richard Warley ?
Alors, c'est intéressant parce que vous employez le terme mosaïque que j'ai utilisé. Il y a un autre terme beaucoup plus courant aujourd'hui, c'est l'archipel français,
oui.
Qui a été notamment popularisé par le livre de Jérôme Fourquet, qui est un livre aujourd'hui de référence pour décrire l'état de la France. Effectivement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quantité des délimitations, des démarcations françaises d'aujourd'hui, sont des démarcations qui sont imposées par un système que les gens ne comprennent pas. Par exemple, on peut donner des tas d'exemples, ils ne comprennent
Allez-y,
pas toujours...
Allez-y, racontez-nous ce que vous avez vu sur place.
Alors là, on est dans le quotidien, on n'est plus dans l'histoire, on n'est plus dans la ligne de démarcation.
Mais dans les mêmes lieux.
Ils ne comprennent pas, par exemple, dans ces mêmes lieux, pourquoi ils n'ont plus accès à un cabinet médical qui était là et qui maintenant a été déplacé. Ils ne comprennent pas pourquoi ils dépendent sur le plan bancaire d'une agence qui est à 60 km alors qu'avant, elle était à proximité. En gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que la mosaïque est le résultat d'une... On est passé d'une mosaïque à l'autre. Mmh. Au fond, la France de la ligne de démarcation, la France de 1940 qui se poursuit, on pourrait dire, jusqu'aux années 90, c'est une France où les services de proximité sont là. Donc la mosaïque, elle est faite des communes, des départements, c'est la mosaïque qu'on connaît. Et puis à partir des années 90, elle se disloque. On a une autre mosaïque qui devient administrative et que les gens ne comprennent plus parce que il y a toujours les communes, il y a toujours les départements, mais les services public notamment, que vous attendez, ils ne respectent plus cette organisation-là. Et ça, c'est très difficile à comprendre.
Ça, c'est un facteur d'angoisse collective.
Moi, je pense que c'est un facteur d'angoisse collective, c'est un facteur surtout de détresse.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, dans les racines du présent, nous scrutons cette ligne de démarcation de 1940 jusqu'aux fractures d'aujourd'hui. Tel est le titre du livre du journaliste et historien Richard Warley, La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui. C'est édité chez Grasset. Nous sommes également en compagnie de l'historien Éric Allary qui a publié un Que sais-je intitulé La ligne de démarcation et également un livre sur le même thème aux éditions Perrin, dont une nouvelle édition en poche vient de ressortir. Alors, Richard Warley, je l'ai dit, vous êtes franco-suisse. Il y a quand même un endroit un peu précis, un peu particulier dans cette ligne de démarcation aujourd'hui que vous avez scruté, visité. C'est cette frontière franco-suisse. Et la frontière franco-suisse, il s'est passé des choses pendant la guerre et il se passe aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Racontez-nous.
Oui, c'est une frontière absolument passionnante. À l'époque, rappelons-le, c'est une frontière qui cette fois peut vraiment marquer la différence entre la vie et la mort, notamment pour les Juifs qui cherchent à quitter le territoire français et qui vont, pour un certain nombre d'entre eux, réussir à passer en Suisse. La Suisse étant restée neutre, vous le savez, étant le seul pays d'Europe qui va rester intact et qui va survivre à la guerre dans des conditions d'ambiguïté très problématiques qui font que bien plus tard, une commission d'historiens va être convoquée pour regarder les vérités helvétique en face, y compris les compromissions avec le régime nazi. Aujourd'hui, c'est une frontière très intéressante également, parce que c'est une frontière où vous avez côte à côte deux territoires qui vivent de manière totalement différente. Vous avez un territoire, on pourrait dire, aspirateur, qui est le territoire suisse, haut niveau de vie, pas de problème de pouvoir d'achat, ou en tout cas beaucoup moins de problèmes de pouvoir d'achat, grande qualité des services publics, grande décentralisation et sentiment de responsabilité généralisée.
Et des emplois.
Et des emplois. Et juste à côté, si vous prenez le cas de Genève, qui est une enclave en fait en territoire français, Genève est entourée de ce qu'on appelle la France voisine, qui sont des régions qui souffrent parce que, d'une part, alors elles ont, sur le plan foncier, le prix du foncier a augmenté, elles ont donc profité du miracle suisse, beaucoup de gens vont travailler en Suisse, tant mieux pour eux. Par contre, les régions elles-mêmes, elles sont tenues par le principe d'égalité territoriale, donc elles perdent leurs meilleurs éléments, elles perdent leurs instituteurs, elles perdent leurs infirmières, tous ces gens-là partent en Suisse, et finalement, c'est cette France voisine subit la Suisse. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'on voit bien là la difficulté française qui est de s'adapter aux situations telles qu'elles sont, de s'adapter aux réalités. Aujourd'hui, si vous êtes maire d'une commune de France voisine...
Alors, comment font-ils ?
Eh bien, vous êtes obligé de donner des primes, quelquefois même en cash, à vos employés.
Illégal, donc ?
D'une certaine manière illégale, parce que sinon vous ne les gardez pas.
Voilà.
Vous ne gardez plus vos secrétaires de mairie, vous n'arrivez pas à avoir de policiers municipaux, parce que tous ces gens-là partent en Suisse à côté pour de bien meilleurs salaires.
Donc il n'y a plus de frontière, la frontière est ouverte.
La frontière,
et pourtant...
La frontière est ouverte et pourtant elle existe, elle est matérielle, elle est dans les têtes, et vous finissez par concevoir une sorte de désamour de la France. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher, je crois qu'il y en a 150 000 qui traversent la frontière par jour, c'est
tous
frontalier,
les jours, 150
de regarder 000, ouais. la France et vous dire mais pourquoi ça ne va pas aussi bien. Alors, il y a beaucoup d'explications, mais vous êtes dans une situation, je dirais, de déception permanente vis-à-vis de la France.
Alors, pourquoi ça ne va pas aussi bien ? Richard Verly, vous avez lu, pendant votre séjour à Vichy, vous avez lu un livre de l'ancien président de la République, Georges Pompidou, intitulé « Le nœud gordien ». Et Georges Pompidou écrit cette phrase « Pas une fois dans ma vie, je n'ai vu les Français aux prises avec une épreuve dont ils ne fussent eux-mêmes les auteurs avant de devenir les victimes. Ils n'ont jamais de pires ennemis qu'eux-mêmes. » Pourquoi cette phrase-là vous est-elle frappé, Richard Verly ?
Parce qu'elle me semble très juste. Je crois qu'il y a effectivement, et c'est le titre du livre, La France contre elle-même, il y a une capacité incroyable de la France et des Français à batailler contre eux-mêmes en permanence. Alors là, je me tournerai vers Éric Alary pour la période de la guerre, parce qu'il y a aussi des échos, il y a des choses qu'on peut ajouter. Je voudrais juste dire que ce titre, il est au fond emprunté à un autre journaliste suisse qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1955, Herbert Lüthi, a fait un livre qui s'appelait « À l'heure de son clocher » où il racontait l'identité de la France, il essayait de la raconter, et l'édition anglaise de son livre, je précise, l'édition anglaise, avait pour titre « France against herself », et donc ça donne « La France contre elle-même ».
Éric Alary, vous qui êtes historien, « La France contre elle-même », ça a été la ligne de tension de ces années de 1940 à 1944.
Oui, et d'ailleurs c'est tout à fait instrumentalisé par le chef du régime de Vichy, c'est-à-dire par le maréchal Pétain, qui veut faire des Français, qui culpabilise sans arrêt les Français.
Ouais.
Regardez, en juin 1940, les Français sont des pauvre réfugié malheureux qu'il va aider et qu'il va sauver, et un an après, il les traite de fuyards, de produits de la déliquescence républicaine, etc. Il y a, quand j'entends effectivement Richard Verly, ça m'oblige à réfléchir avec une autre grille de lecture à l'un de mes objets d'histoire, et de me dire finalement, il y a une forme de masochisme. Là, on va plutôt aux confins de la psychanalyse, j'espère pas de bazar,
mais
c'est vrai qu'il y a une forme de culpabilisation, et cette culpabilisation des Français, elle dépasse même, je dirais, la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, ça a été très très dur quand j'ai travaillé sur l'Exode, sur la ligne de démarcation. Certes, j'avais des témoins que n'avait pas Richard Verly, mais on ne m'en a pas parlé facilement de la ligne de démarcation de l'Exode, comme si c'était une sorte de cicatrice.
Toujours ce passé qui
terroir,
ne passe pas.
Un passé qui ne passe pas, comme disaient Conan et Henri Rousseau. Et effectivement, on s'aperçoit que même dans les livres d'histoire, par exemple sur l'Exode, on raconte que c'est à cause des réfugiés que l'armée française perd la guerre, ce qui est totalement faux. Mais ça a été inscrit dans les discours de Pétain, puis dans les têtes des Français, puis on a oublié tout ça, on a parlé de la grande résistance instrumentalisée par les communistes et les gaullistes, mais les fractures sont bien là. Ces fractures dont parlait d'ailleurs c'est un fait intéressant. En 1947, Jean-François Gravier, dans un ouvrage qui fera date, qui s'appelait « La France du vide », qui est tout à fait intéressant et qu'on retrouve.
Et qu'on retrouve aujourd'hui.
Oui, et je retrouve très bien dans la description que fait Richard Verly, puisqu'il a visité cette France récemment. Moi, je l'ai visité il y a maintenant, il y a assez longtemps. Et effectivement, je constate cela, oui.
Alors, Richard Verly, revenons sur le terrain, si vous le voulez bien. À Châtillon-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, vous êtes rendu là-bas et vous avez découvert ce que vous appelez l'archipel et ses passerelles. Est-ce une référence à l'archipel français dont vous parliez tout à l'heure, diagnostiqué par Jérôme Fourquet? Et de quelle passerelle s'agit-il?
Oui, c'est tout à fait une référence. Il y a, alors là, je prends ma casquette de correspondant du temps en France. Moi, j'ai lu le livre de Fourquet avec passion. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises. Il met le doigt sur des réalités absolument statistiques évidentes. Il dresse un portrait de la France. Mais je dois dire que mon voyage le long de ces régions de la ligne de démarcation m'a fait réaliser qu'il y a un manque à son ouvrage.
Allez-y.
C'est qu'on peut, on ne peut pas parler de l'archipel français sans parler des passerelles. C'est-à-dire que l'ingéniosité française, et là on y revient, qui était celle de 1940 pour traverser la ligne de démarcation, elle existe toujours aujourd'hui. Les Français, en fait, la société française est capable de jongler avec cette archipélisation. Il n'y a pas, par exemple, sur le plan communautaire, c'est le plan le plus sensible, il y aurait des quartiers complètement ethniques, vous connaissez la thèse, etc. Eh bien, oui et non. Oui, ces quartiers existent, mais en même temps, l'interaction entre ces quartiers et le reste des villes se fait en permanence. Fourquet cite beaucoup l'exemple des kebabs, qui est un exemple politiquement extrêmement sensible
proliférer.
En France. Mais dans ces villages, à 20 heures du soir, le kebab est un lieu de socialisation.
C'est même le seul qui reste.
C'est souvent le seul qui reste. Et pour les jeunes qui viennent, il n'est pas du tout vécu comme un intrus étranger. Et donc, toute ma réflexion, c'est de dire, dans cette France-là, je le dis bien dans cette France-là, où il n'y a pas de ghetto, parce que très souvent, il y a aussi des problèmes dans les grandes métropoles de ghettoisation. Dans cette France-là, la sensation de l'archipel est réelle, mais la sensation du vivre ensemble, elle n'a pas complètement disparu, parce qu'au quotidien, les Français continuent de vivre ensemble. Ce qui les désespère, et on y revient, c'est que les infrastructures qui étaient les leurs et qu'ils attendent de la part de l'État, des infrastructures simples, et on revient notamment aux déserts médicaux, ces infrastructures-là ont disparu. Et ça, c'est vraiment la douleur permanente, parce qu'ils se sentent délaissés.
Et puis vous avez repéré aussi, Richard Verly, tout au long de cette ligne de démarcation, vous avez repéré des héros méconnus, des héros ordinaires, notamment à Tercé dans la Vienne. Vous évoquez la fabrique ordinaire de l'héroïsme.
Oui, alors là, Éric Alary pourra donner beaucoup plus d'exemples que moi, parce que son livre en regorge, il a plusieurs chapitres largement consacrés aux passeurs, notamment, parce que le passeur est une figure extraordinaire, le passeur de la ligne de démarcation. J'en ai connu moi-même dans le village où habite toujours ma mère.
Tout à l'heure, vous parliez des passerelles, maintenant on parle des passeurs.
Absolument. Le passeur est une figure extraordinaire parce que le passeur est souvent un paysan, concrètement parlant, parce que c'est lui qui connaît la manière de franchir la rivière à gué, etc. Donc, à un moment donné, c'est lui qui intervient, mais il y a la chaîne du passeur. Il y a souvent un notable qui est impliqué, un notable qui va fédérer, qui va organiser les choses, en quelque sorte. Il y a des curés qui jouent un rôle actif, etc. Donc oui, c'est une fabrique ordinaire de l'héroïsme et qui va permettre aux gens de sentir qu'ils font quelque chose et qu'ils ne sont pas à terre. Et au fond, c'est vraiment ça, la France d'aujourd'hui, c'est trouver des héros ordinaires qui tiennent ce pays debout.
Alors, ils existent.
Moi, je crois qu'ils continuent d'exister.
Ce sont des militants associatifs, des gens qui sont engagés
ils
localement.
Existent, et ils existent aussi, il faut bien le dire, parmi les Gilets jaunes. Mmh. Il y avait parmi ces gens, parmi ces manifestants, beaucoup de héros ordinaires.
Également,
la difficulté, c'est qu'ils ne se retrouvent pas dans la projection globale, nationale de la société telle qu'elle est. Faisons quand même et battons notre coulpe, ils ne se retrouvent pas dans les médias.
C'est ça. Éric Alary, vous en avez croisé au cours de votre enquête historique autour de la ligne de démarcation de ces héros ordinaires.
Juste pour rebondir, si vous me permettez 30 secondes, ce que disait Richard Verly, l'archipélisation, effectivement, n'explique pas tout. Et je suis content, c'est un des premiers, d'ailleurs, Richard Verly, à le dire, cette archipélisation. Il suffit de relire, et il l'a fait, je crois, Fernand Braudel, ce grand historien du temps long et du temps court. Et c'est vrai que beaucoup réécrivent l'histoire, malheureusement, en ce moment. Ce que dit des Gilets jaunes Richard Verly est tout à fait intéressant. Il y a effectivement des héros ordinaires qui ne sont toujours pas satisfaits. Donc j'ai peur que tout cela, mis bout à bout, forme un poison lent. Mais passons. Alors, les Français, c'est vrai, se sentaient sur le terroir rural essentiellement de la ligne de démarcation, se sentaient occupés. Ces anciens occupés ou descendants d'occupés que je trouve aujourd'hui, comme le dit en d'autres termes Richard Verly, très préoccupés. Et parmi ces passeurs, il y avait effectivement des femmes, des hommes, il y avait 45-50% de paysans sur l'ensemble de...
Oui, car la France était rurale, il faut le rappeler.
La France était rurale, hein, oui. Était encore à 49% rurale. Voilà. Et donc les agriculteurs forment à peu près 45% des passeurs. Hein, ce sont des moyennes, les ouvriers sont un peu plus nombreux à Montchanin, du côté du Creusot. Évidemment, ça dépend des circonstances locales. Il y a des disparités sociologiques. La plupart des passeurs ont entre 15 et 30 ans. L'immense majorité, mais près de 15%, 15-20% des passeurs sont des passeuses, ou des aides passeurs, si vous voulez, et qui vont repriser les chaussettes, qui vont couler le bateau, la barque à telle écluse, qui vont écoper pour que la nuit la barque soit utilisable par l'époux, qui va ensuite faire passer un certain nombre de passagers. Il y a aussi, c'est vrai, des leaders, des filières de passage. Il y a les passeurs intemporels, il y a les passeurs qui ne passent qu'une fois, puis il y a ceux qui vont passer pendant des années, avec des filières qui partent depuis la Belgique, je pense au réseau Comet, qui partent de Saint-Lô, en Normandie, et qui sont dirigés par des médecins, par des maires de village, par des gens qui sont bien assis, comme on dit socialement, et par des prêtres, beaucoup de prêtres également, tout au long de la ligne de démarcation, qui vont faire passer la ligne, souvent d'ailleurs des prêtres qui avaient été aumôniers pendant la Première Guerre mondiale et qui maîtrisaient l'allemand, donc qui maîtrisaient aussi les gardiens allemands de la ligne de démarcation, qui leur faisaient boire un coup de Sauvignon, comme on dit en Touraine, pour les tromper et tromper leur vigilance.
Et il faut le rappeler, Éric Alary, tous ces gens, tous ces héros ordinaires, risquaient leur vie.
Exactement. Alors, c'est Elsa Triolet et Aragon qui passent du côté de Loche. Et Elsa Triolet en a fait un livre qui s'appelle « Ce n'était qu'un passage de ligne » chez Segers, évidemment il y a très longtemps, et qui raconte que ces héros risquaient leur vie pour eux et qu'ils étaient souvent dénoncés. D'ailleurs, Aragon et Elsa Triolet vont passer quelques jours dans une école municipale de Tours, dans une école improvisée en prison, et il y avait ainsi des centaines de passagers et de passeurs qui passaient 3-4 semaines dans des prisons improvisées le long de la ligne de démarcation, comme à Moulins-sur-Allier, par exemple, que cite souvent Richard Verly. Et en fait, le passage le plus risqué était le passage du renseignement. Le passage du renseignement, ce sont des gendarmes souvent qui l'ont opéré, des facteurs, des cheminots. Parmi ceux-là, beaucoup sont morts, décapités, envoyé en Allemagne, à Cologne, jugé par le tribunal populaire allemand et décapité à la hache, comme par exemple le colonel Rabi, chef des gendarmes de l'Indre-et-Loire. Et donc, ils risquaient énormément, les récidivistes risquaient beaucoup. Ils pouvaient également être abattus sur la ligne de démarcation. On pourrait rappeler le sort des frères Toupé à Téniou, que Richard Verly a visité, ce petit village-là du Cher, qui n'ont pas répondu aux sommations et qui vraisemblablement ont également été dénoncés.
Alors Richard Verly, vous êtes allé aussi, on continue à parcourir ce tracé de la ligne de démarcation, vous êtes allé à notre frontière avec les Pyrénées, vous êtes allé à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, et là vous dressez une sorte de parallèle entre le quadrillage policier de l'époque et le quadrillage policier dans le cadre de la lutte contre l'ETA. Racontez-nous, en tant que journaliste, comment vous avez compris cette analogie peut-être, Richard Verly?
Mais vous savez, l'analogie est assez simple parce que l'ETA, donc organisation terroriste basque, dont on connaît l'histoire, avait besoin de venir se réfugier en France. Donc ce sont des terroristes basques qui franchissaient les Pyrénées pour venir se réfugier en France avec l'assentiment de certains responsables locaux, etc. Et donc, oui, parce que moi ce qui me frappe, c'est quand on est à Orthez, alors c'est une autre... Je dirais, c'est une autre mythologie de la ligne de démarcation. Oui. C'est très intéressant d'ailleurs. Il y a la mythologie, je dirais, rurale du centre de la France, sur laquelle on a beaucoup parlé, là à l'instant. Et quand vous obliquez vers le sud, à hauteur de la Touraine, à hauteur de Chenonceau-Bléré, Éric Alary en parlait tout à l'heure, on se retrouve dans une autre configuration, parce que ce que vous avez de l'autre côté de la ligne, c'est le littoral atlantique. Le littoral atlantique, pour des raisons évidentes, il est extrêmement militarisé.
Oui, il est interdit même en partie.
Il est interdit,
oui.
Il est extrêmement militarisé. Vous avez des unités allemandes extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et puis, par ailleurs, si vous regardez une carte, il est bien évidemment plus facile, si vous voulez aller en zone non occupée, de franchir à hauteur de Moulins, Vierzon, si vous venez de Paris, plutôt que de descendre jusqu'à Orthez. Si vous allez, là, c'est les gens qui vont chercher notamment à aller vers l'Espagne, par exemple. Oui. Donc c'est une autre. Et oui, je fais ce parallèle parce que il y a une présence policière. C'est-à-dire, c'est le rapport à l'État qui m'intéresse. Et je pense que la ligne de démarcation a été aussi un moment où les Français étaient obligés, par les circonstances, de réinventer leur rapport à l'État. C'est-à-dire, l'État qui les protégeait devient l'État contre lequel ils doivent lutter. L'État s'entend l'État français, c'est-à-dire le régime de Vichy. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est un moment où ils n'ont pas d'autre solution, pour ceux qui ne sont pas des collaborateurs, que de se rebeller. Et ça, c'est intéressant.
Cette réinvention du rapport à l'État, Éric Alary, vous l'avez constaté aussi dans vos enquêtes historiques sur ces années d'occupation.
Oui, il y en a qui réinventent leur mission au service de l'État. Moi, je pense aux gendarmes, par exemple. Sur la ligne de démarcation, vous trouvez tous les comportements de gendarmes, tous les comportements de préfets, de maires. Certains appliqueront à la lettre toutes les réglementations, par exemple, anti-juives, et faisant de la ligne de démarcation un filet pour attraper les familles juives, notamment. Puis vous avez des gendarmes qui vont prêter leur uniforme pour déguiser un juif et le faire passer de l'autre côté de la ligne. Car aussi, beaucoup... étaient désobéissants, peut-être pas tout à fait au début, mais beaucoup d'agents de l'État étaient désobéissants aux ordres de Vichy. Dès 1941, Pierre Laborie l'avait très bien montré, l'opinion française a divorcé, avec Pétain en grande partie, et puis encore plus tard, avec les interventions du haut clergé français après la déportation des enfants juifs. Et puis, il y a les agents de l'État qui essaient aussi de déjouer les pièges qui sont jetés par les faux passeurs. On a parlé des héros tout à l'heure, mais il y a ces faux passeurs qui font passer en Suisse, quand ils le peuvent, par les montagnes, qui font passer en Espagne. Et là, ce sont des passages différents. Il a tout à fait raison, Richard Verly, de dire que là, ce sont des passages beaucoup plus redoutables, les passages des montagnes, en hiver, très compliqués. Et donc, il faut déjouer un certain nombre de pièges, et notamment essayer de contourner ces faux passeurs qui vont demander jusqu'à 2000, 3000 francs par personne passée, à partir notamment de la fin 1941.
Alors, on arrive bientôt, malheureusement, au terme de cette édition des Racines du Présent. Richard Verly, je voudrais en venir à votre conclusion, à votre analyse synthétique. In fine, vous écrivez « La France manque de marqueurs solidaires qui parlent à la majorité. La démarcation de 1940 était bien plus brutale, et on l'a vu, et meurtrière que les fractures de 2022. Mais ces dernières, écrivez-vous, Richard Verly, en paralysant la réflexion sur la capacité demain d'être français ensemble, prennent peu à peu la forme d'un poison lent qui mine la République. Et j'ai noté que tout à l'heure, l'historien Éric Alary a évoqué aussi ce poison lent. Expliquez-nous, Richard Verly.
Oui, effectivement. Vous savez, j'ai rencontré un peu moins d'une dizaine de survivants de cette époque qui, bien évidemment, ceux que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui, à l'époque, même pas adolescents, avaient entre 12 et 14 ans. Et ce qu'ils m'ont dit et ce que j'ai retrouvé aussi dans la presse régionale, alors bien évidemment, c'est peut-être une réécriture de l'histoire, mais on ne peut s'en tenir qu'à ce que les gens vous disent, c'est que, certes, la ligne de démarcation, la guerre a été une énorme souffrance, mais à cette époque-là, tout était possible. Ils ont gardé de cette époque le sentiment que tout était possible, dans la douleur, avec des risques, avec peut-être la possibilité de perdre la vie. Mais c'est ce qui domine, c'est le sentiment du possible. Aujourd'hui, dans ces régions, ce qui domine, c'est le sentiment de l'impossible.
Là est la fracture.
Absolument. Et là, à mon avis, c'est là où on est sur le poison lent. C'est-à-dire combien de temps ces populations vont accepter d'être confrontées à ce qu'elles estiment un avenir impossible, ou en tout cas un avenir qui ne leur convient plus, où il n'y a plus de fenêtre ouverte. Parce qu'une chose qu'on n'a pas dit, mais ça, c'est pas la ligne de démarcation, c'est la guerre. C'est que la guerre a été un énorme brasseur de populations. Les gens qui ont pris les responsabilités au sortir de la guerre ne l'auraient jamais pris s'il n'y avait pas eu ce conflit, on le sait bien. Donc j'ai trouvé cette nostalgie de l'optimisme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, l'optimisme de la brutalité. À un moment donné, quand vous êtes confronté à une telle brutalité historique, vous n'avez pas d'autre sentiment que de vous battre et d'espérer. Aujourd'hui, il n'y a plus de brutalité historique, mais on désespère.
Éric Alary, vous qui êtes historien, ne pourrait-on pas attribuer cette gigantesque neurasthénie que nous vivons en ce moment, cette dépression l'émigration nationale, au fait que la France est sortie de cette société rurale qu'il a structurée au fil des siècles, une société structurée par le temps long, par des solidarités et des cohérences sociales de base. Peut-être certains d'entre nous sont fascinés par cette nostalgie que on pourrait évoquer peut-être une nostalgie du rétroviseur. Jusqu'à quel point peut-on pousser cette hypothèse, Éric Alary?
Oui, merci de poser cette question, vous avez raison. Tout était possible avant. D'ailleurs, rappelons qu'en 1943, les Français refont des enfants à un moment où ils n'ont jamais aussi peu mangé dans l'histoire. Tout était mieux avant. Effectivement, on l'entend, c'est la nostalgie d'un monde qui était soi-disant meilleur, mais qui quand même était brutal.
Oui.
Est-ce que la guerre, c'était meilleur? Et je rejoins la question, effectivement, de Richard Verly. La déstructuration du monde rural est quelque chose que beaucoup de Français ont du mal à digérer. Alors, il y en a qui réécrivent aussi cette histoire ou qui se la racontent en quelque sorte pour se rassurer peut-être aussi. Mais c'est vrai que en moins de 50 ans, on est passé d'une société rurale depuis des siècles à une société urbaine. C'est-à-dire qu'on demande à une société de digérer des mutations en moins de 50 ans, alors qu'elles étaient ces mutations
lentes.
Avant, la vie rurale, effectivement, était lente, avec des structures, etc. Et d'un seul coup, on va passer dans un monde mondialisé. Le monde rural passe dans un monde mondialisé, avec l'impression toujours de ce fossé entre Paris-province, entre la campagne et la ville, qui était déjà entretenu par la littérature du XVIIIe et du XIXe siècle, avec une légende noire du monde rural, une légende dorée du monde rural. La vérité doit être à peu près au milieu de ce questionnement. En tout cas, cette hypothèse que vous soulevez l'un et l'autre me paraît encore à soulever. Ça n'est pas la seule hypothèse, facteur d'explication, bien sûr.
Merci beaucoup, Éric Alary. Je pose une toute dernière question à Richard Verly en un mot. J'imagine qu'au fil de cette enquête, vous vous êtes interrogé. Qu'aurions-nous fait, nous, tout au long de la ligne de démarcation? Vous avez une réponse, Richard Verly?
Bien, je pense que beaucoup d'entre nous auraient cherché comment être digne.
Oui.
Parce qu'au fond, ce qui différencie ceux qui se sont très mal comportés, et il y en a eu quantité, il faut bien l'admettre, de ceux qui se sont bien comportés, je dirais normalement, c'est la dignité. C'est la dignité, c'est cette idée que il fallait être digne dans l'épreuve d'abord humaine, il fallait aussi être d'authentiques républicains. C'est la dignité, la fidélité à la République. Et au fond, on est là aussi sur une question qui se pose aujourd'hui. Dignité et fidélité, parce que quand on sombre dans l'indignité et dans l'infidélité à la République, là, on est de l'autre côté de la ligne de démarcation, c'est-à-dire du côté le plus obscur de celle-ci.
Merci beaucoup Richard Verly. Nous allons donc tenter de rester dignes et fidèles à la République. Je rappelle le titre de votre livre, La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui. Un livre absolument passionnant qui nous donne les racines de notre présent, qui nous propose des racines à notre présent. C'est publié chez Grasset. Et puis Éric Alary, parmi vos nombreux livres, je rappelle donc vos ouvrages consacrés à la ligne de démarcation, aussi bien en Que sais-je que dans la collection de poche Tempus chez Perrin. Et puis un grand merci à nos amis de RCF Tours qui vous ont hébergé, Éric Alary, pour ce duplex. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF, et vous pouvez évidemment réécouter ad libitum et en balado-diffusion cette émission et toutes celles qui l'ont précédée tout au long de vos trajets, peut-être sur les lignes de démarcation françaises. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.